Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et un nouveau livre de Ian Kershaw vient de paraître en anglais. Vous nous rappelez qui est Ian Kershaw ?
C'est l'un des plus éminents historiens britanniques de notre époque. Sa biographie d'Adolf Hitler en 2 volumes, parue en français chez Flammarion, passe pour indépassable. Récemment, les éditions du Seuil nous ont donné une traduction du livre dans lequel il explique comment le régime hitlérien s'est radicalisé mais a tenu jusqu'au bout en organisant le contrôle impitoyable de l'armée et de la société allemande à partir de l'attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944. Ce livre porte pour titre « La fin, Allemagne 1944-45 ». Bien, un autre livre de parution récente du même, Ian Kershaw, intitulé « L'Europe en enfer 1914-1949 » est paru, lui, au Seuil en 2016. Et de l'avis général, c'est un chef-d'œuvre. Alors bien sûr, l'histoire allemande, dont cet auteur est un spécialiste, y occupe une place décisive, mais ce volume couvre toute l'histoire européenne, y compris celle des pays d'Europe centrale et nordique, ce qui est assez rarement le cas. Il couvre en outre la Russie, puis l'URSS, et ce livre ne néglige pas davantage l'histoire politique, bien sûr, que celle de nos guerres, l'histoire économique, sociale, culturelle, démographique. Or, Kershaw vient de publier une suite à ce volume indispensable qui s'appelle « The Global Age » et elle couvre cette fois-ci la période 1950-2017. À nouveau un pavé de plus de 600 pages. Dans « The New York Review of Books », Anne Applebaum en dit beaucoup de bien. Une phrase prononcée par un secrétaire britannique d'État aux affaires étrangères le 3 août 1914 servait d'introduction au premier volume de cette histoire de l'Europe contemporaine. « Les lampes s'éteignent partout en Europe. Nous ne les verrons plus allumer le restant de notre vie. » Et bien cette fois, c'est encore un politicien anglais qui annonce la couleur des années d'après-guerre en Europe, Winston Churchill en personne. Depuis Stettin sur la Baltique jusqu'à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Nous ignorons tout de ce qui se passe derrière.
Et Brice, pour Anne Applebaum, l'année décisive, celle par laquelle Kershaw aurait peut-être dû entamer son histoire, c'est 52. Pourquoi 52?
En 52, parce que tombe la condamnation à mort du secrétaire général du PC tchécoslovaque pour participation, je cite, à un complot sioniste, titoïste, trotskiste. Staline vieillissant vit ses derniers mois, mais il devient de plus en plus paranoïaque et une terreur absurde s'abat sur les peuples restés de l'autre côté du fameux rideau de fer. Le président américain Truman, à la même époque, prévient le Congrès des États-Unis qu'une terrible menace d'agression plane sur l'Europe occidentale et il obtient d'autoriser l'Allemagne fédérale à se réarmer au sein de l'OTAN pour y faire face. Mais cette même année 1952, Staline fait aux Allemands de l'Ouest une proposition inattendue, la réunification. À condition de se déclarer neutre, et il promet de respecter, je cite, « la libre activité des partis démocratiques ». Bien des Allemands de l'Ouest jugent l'offre alléchante, mais le chancelier Konrad Adenauer refuse. Il n'ignore pas que Staline avait fait la même promesse aux Polonais et qu'il a installé dans ce pays une dictature communiste. En outre, le chancelier considère comme encore fragile la démocratie dans son pays et c'est pourquoi il veut arrimer solidement la RFA à l'Ouest. Il se prononce pour le maintien des troupes alliées sur son territoire, y compris celles des vieux ennemis français. La même préoccupation lui inspire la participation de l'Allemagne de l'Ouest à la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis à la communauté économique européenne, l'ancêtre, on le sait, de notre fameuse Union européenne. Eh bien, durant les 40 années suivantes, écrit Anne Applebaum, les nations d'Europe occidentale se rassembleront autour des mêmes choix, la démocratie plutôt que la dictature, l'intégration plutôt que le nationalisme, l'économie sociale de marché plutôt que l'économie socialiste étatisée. En même temps, ces pays restructurent leurs économies capitalistes et connaissent tout en même temps des succès économiques qui leur permettent d'installer de solides états-providence. Leur performance contraste avec les crises à répétition qui secouent et font capoter les pays situés de l'autre côté du rideau de fer. Ces succès économiques nourrissent une créativité culturelle remarquable et Kershaw s'enthousiasme pour Günter Grass, Camus, Fellini, les Beatles ou Christian Dior. L'Europe redevient à cette époque l'un des centres culturels les plus attractifs du monde. En Europe de l'Est aussi, on voit fleurir les talents, les films de Vajda, István Csabó, les romans de Kundera, les récits de voyage de Kapuscinski, mais la plupart de ces créateurs de l'autre côté cherchaient non pas à illustrer les mérites de la civilisation soviétique, mais au contraire à y échapper, à rejoindre l'autre côté. Tchèques et Polonais, lorsqu'ils furent autorisés à dire ce qu'ils pensaient, répondaient « vivre normalement ». Et normalement, cela voulait dire « comme en Europe de l'Ouest ». Et c'est pour intégrer l'OTAN puis l'Union européenne que ces peuples ont accepté d'intégrer quantité de normes qu'ils ont renoncé à une partie de leur souveraineté à peine recouvrée. Mais voilà, la croyance en la supériorité de l'Ouest a été sérieusement ébranlée par la crise de 2008. Depuis, le doute s'est installé. Le modèle ouest européen reste-t-il la meilleure des options disponibles? Et c'est pourquoi notre Europe est en crise.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.